République, portrait avec Fabrice Luchini. Invité naguère à ce micro pour parler d'Henry James avec Mona Ouzouf, Pierre Manant a confié qu'il ne lisait pratiquement pas de romans. Pour la raison, disait-il, qu'il y a dans un roman beaucoup trop de pages et beaucoup trop de mots. Or, j'aime les œuvres où je peux m'arrêter à chaque mot. Cet aveu, étrange et profond, m'est revenu en mémoire l'autre soir, au théâtre Marigny, quand j'ai entendu Fabrice Luchini reconnaître sa difficulté à entrer dans les longueurs du roman et dire qu'il préférait les aphorismes ou les portraits au développement sans fin. Or, comme le note Suzanne Julliard, les portraits remarquables ne manquent pas dans la littérature française. Mais plutôt que d'aller regarder du côté de Proust, de La Bruyère ou de Saint-Simon, vous avez construit votre dernier spectacle, Fabrice Luchini, autour d'un écrivain presque oublié et qui ne figure dans aucune anthologie, Jean Co. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui justifie cette exhumation surprenante, Fabrice Luchini?
Comme dirait Roland Barthes, le concept du coup de foudre, de l'énamoration. Je connaissais très mal, j'avais même pas les réminiscences de l'homme scandaleux qui était passé de Sartre, de la gauche, à la droite. Je savais même pas que Paris Match, j'avais pas. Le mystère qui m'a entraîné à découvrir Croquis de mémoire, ça a été une révélation, j'ai jamais vu ça, j'étais sidéré, ça se hisse presque au niveau de la grande littérature. J'ai osé dire dans une émission littéraire que ça frôlait le chef-d'œuvre et je ne sais pas pourquoi je suis tombé dessus. Alors là, il y a un mystère absolu. Peut-être parce que mon attirance va vers ce qui est un tout petit peu transgressif, tout ce qui est haï par la doxa, tout ce qui est détesté par cette merveille du au-delà même du politiquement correct, ça veut plus rien dire, mais au-delà même de ce que Muret appelle l'empire du bien, je suis comme l'amateur de pornographie, j'aime bien aller voir Léon Blois, j'aime bien aller jeter un œil sur Joseph de Maistre, que je n'aime pas tellement d'ailleurs, auquel je n'accède pas. Mais Jean Co, est-ce que c'est cet inconscient qui m'a entraîné? En tout cas, au-delà de tout ça, c'est un immense et génial écrivain.
Alors, pour ma part, j'ai découvert Jean Co, les croquis de mémoire, chez un bouquiniste. Et je l'ai lu avec une certaine réticence, parce que je savais qu'il avait été le secrétaire de Sartre. Son évolution avait été spectaculaire. C'est pas simplement de la gauche à la droite, mais des temps modernes et de Sartre à Paris Match. L'amitié avec Alain Delon, le comportement macho. Donc, toutes ces réserves ne m'ont pas empêché de le lire. Et il est vrai, je ne sais pas si Croquis de mémoire est un chef-d'œuvre, mais il y a de très beaux portraits. Alors, quel est celui, Fabrice Luchini, qui vous a tout de suite... intéressé, provoqué.
Par exemple, il y a une phrase sur Jean Cocteau, sur Gaston Gallimard. Mais la phrase de Gaston sur Jean Cocteau, je peux la dire,
c'est bien sûr.
Bon. Donc il décrit Jean Cocteau. Alors, j'ai découvert grâce à Jean Cocteau l'idée, alors je vais redire la littérature méchante. Ça, c'est un truc, c'est Jean Cocteau m'a produit cette révélation. J'ai même tenté, parce que je m'amuse à être un trissotin et un vadius des femmes savantes, je me suis dit, finalement, la littérature de droite est méchante. Et la littérature de gauche est souvent gentille. Je me suis lancé là-dedans, mais enfin, je vais pas développer le truc. C'est méchant et plein d'admiration. Alors, pourquoi? Par exemple, il parle de Cocteau, alors il dit ce Cocteau est à... Par exemple, il dit de Cocteau, il a une voix merveilleusement maigre, pas un gramme de graisse dans la voix. Je dis, non, c'est pas mal quand même. Pas un gramme de graisse. Alors, il le voit brillant avec des métaphores incroyables. Moi, je construis des tables, c'est aux autres de les faire tourner. Il emploie d'autres phrases du style, je ne sais pas, par exemple, on appelle d'Amérique un copain à lui qui a une très belle galerie, une américaine très mal élevée qui lui dit, vous avez des Picasso? Sans lui dire bonjour. Alors, le pauvre David, ami de Cocteau, dit, oui, j'en ai trois. Ah bon, l'autre dit, bah alors, j'achète le plus cher. Alors, le galeriste dit, bah, ils sont tous au même prix, madame. Alors, elle dit, bon, bah alors, je les achète tous les trois. Mais enfin, vous ne les avez même pas vus, dit le galeriste. Et elle répond cette chose étonnante. Et alors, quand j'achète de la chèvre, est-ce que je vais voir le canal de Suez? C'est l'époque, mon chéri, dit Cocteau. Plein de métaphores. Mais à un moment, il y a une phrase qui se hisse au niveau de la littérature pour moi. C'est qu'il continue son portrait en disant, un jour, à table, où nous étions, dit Janco, une dizaine de convives, nous parlions, donc il y avait Cocteau, nous parlions, je crois, de politique, de rien, et du général de Gaulle. Cocteau n'écoutait pas. Il était voûté, les coudes largement appuyés sur son fauteuil d'archevêque, et il regardait. Il regardait devant lui. Quoi ? Rien. Ça a duré 10 secondes, peut-être, mais je n'oublierai jamais le regard terrible de cruauté et de désespoir dans ce visage abandonné. Le même regard qu'à Voltaire sur le buste de Houdon. J'ai eu peur de cette statue, mais il s'est aperçu en un éclair que je l'observais et que j'allais peut-être lui dérober un secret, et pour moi c'est ça l'œuvre du portrait, que j'allais peut-être lui dérober un secret. Et alors il s'est adressé, il s'est repris, et comme une des phrases d'un des convives tombait sur le mot généraux, il a dit « les généraux sont des particuliers », et tout le monde a ri. Vous voyez, cette phrase-là, il a eu peur que je lui dérobe un secret. Voilà le génie du portrait.
Le génie du portrait, alors, vous dites qu'il est question du général de Gaulle. Il y a un portrait de Gaulle qui ne figure pas pour le moment dans votre spectacle, mais qui est tout à fait extraordinaire et qui n'est ni gentil ni méchant, c'est-à-dire qu'il est frappé, comme d'autres, par l'exotisme physique du général de Gaulle. Je dis comme d'autres parce que dans la statue intérieure de François Jacob, il y a une description de De Gaulle tel qu'il lui apparaît à l'Alberto en 1942, il vient d'arriver à Londres, et il dit c'est un personnage gothique, autrement dit il appartient à une autre époque. Mais pour Coe, il appartient à un autre règne, à une autre espèce. C'est une sorte, il y avait en lui, cela a été dit, de l'éléphant aux oreilles battantes et à la trompe ballante. Lorsqu'il apparaissait, il fit merveille à la télévision, lorsqu'il apparaissait, les spectateurs ne le savaient pas, mais cela voyageait dans leur inconscient, je n'en doute pas, on ne voyait pas un homme, mais un hippopotame, un énorme poisson, une baleine, un fabuleux saurien, un phoque en train de palmer dans son naturel et glauque élément. On voyait dans un aquarium un animal extraordinaire. Et c'est vrai, De Gaulle frappait, il n'y avait pas d'équivalent. Et ça, je trouve que ce portrait le dit très justement.
C'est la même métaphore que sur, on en parlera du sublime portrait de Sartre, parce que c'est grâce à vous que je me l'intègre maintenant à la fin de mon spectacle. Il décrit, il dit sur Sartre, on peut parler de Sartre quelques secondes ?
Allez-y, oui, bien sûr.
Il dit... quelques traits. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'humilité avec laquelle il parle de cet homme qu'il a adoré, qu'il a aimé, Jean-Paul Sartre. Alors, il dit quelques traits, Rémi, anecdotes signifiantes, réflexions miennes, rien de plus. Le modèle ne m'appartient pas, dit Janco. Et il tremble trop sous les 1000 miroirs du souvenir et de mon admiration. Et puis, il s'agit que d'un fragment d'un Sartre, le mien. Je remarque qu'il décrit la réalité en enlevant constamment. Il ne rajoute pas de l'adjectif, il ne fait qu'enlever. Il dit ça ne sera pas ça, ça ne sera pas ça. C'est juste un petit fragment. Le modèle ne m'appartient pas. Là, il y a une humilité qui est sublime, c'est l'admiration. Et il dit, il y avait dans son âge de jeune homme, dans la force de son âge, du taureau. Ou plutôt du bouvillon. Il ne marche pas, il fonce. carré, large d'épaule, et en même temps, il y a dans son allure une danse, une succession de chutes rattrapées.
Sa démarche.
Là, pour moi, c'est là je hisse ça au niveau d'une fulgurance flaubertienne, une succession de chutes rattrapées, sa démarche si sublime. Enfin, nous sommes libérés de la psychologie. Enfin, il voit l'homme en référant à de l'organique, à des animaux, avec des métaphores, avec... Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas ses impressions personnelles. Il est une plaque sensible.
Alors, c'est vrai, moi je me suis précipité, quand j'ai acheté Croquis de mémoire, sur le portrait de Sartre. J'ai été ému parce que c'est un portrait plein de tendresse, alors qu'il s'est séparé, qu'il a changé de camp. Mais il continue à aimer Sartre, sa générosité aussi, son rapport à l'argent. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, parce que là, tout d'un coup, j'ai envié Sartre. À un moment donné, il doit de l'argent, il sait pas quoi faire, Janco est complètement affolé. Et voici la réponse de Sartre. « Ne vous en faites pas, Co, on s'en tirera, j'ai une cervelle d'or. » Oh. Cette confiance dans son intelligence, je pense toujours, par opposition, à une phrase de Nicolas Gomez d'Avila, un extraordinaire auteur de Maxime colombien, réactionnaire et très admiré par Garcia Marquez, et qui dit « L'homme ne possède pas son intelligence est en visite chez lui. » Et moi, j'ai toujours cette impression, et il arrive que mon intelligence, simplement, ne soit pas là, ne vienne pas. Or, Sartre possédait son intelligence. Il pouvait dire « j'ai une cervelle d'or ». Et quand j'ai lu cette phrase, je l'ai énormément enviée. Mais elle est étonnante, non ?
C'est une cervelle d'or, c'est bien parce que tous les deux, notre exaltation sincère pourrait presque nous faire jouer dans les femmes savantes, dans le bon sens. Hein. Tu sais, il sait du grec, ma sœur, quelle douceur. Non, mais c'est sincère, hein, Alain Finkielkraut. Non, si on peut parler quand même de Sartre au moment où Janco, et on termine peut-être juste mon intervention sur Janco qui parle de Sartre et qui dit, vous avez été à... Parce qu'il dit en gros que seul l'intéressait la philo, tout le reste, roman, théâtre, c'était une échappée dans l'enfer des autres, c'est-à-dire l'enfer, et parce qu'une comédienne lui a demandé une pièce, il faisait une pièce, mais il n'aimait pas tellement ça. Mais surtout, les théâtres étaient dans un état d'hystérie parce qu'elle n'était jamais prête, fallait attendre 6 mois, 1 an, c'était ça ou rien, il prenait parce que Sartre, c'était un événement. Et le problème qu'il avait, Sartre, c'est qu'il ne coupait pas. Donc, Jouvet, Brasseur, tous les comédiens disaient, est-ce qu'il a coupé ? Et Sartre disait, c'est pas que j'ai pas coupé, c'est que j'ai rajouté. Donc il débarquait au théâtre devant Jouvet, il disait, il a pas coupé, il en a rajouté, et il ramenait des textes, tout le monde était ahuri, et évidemment, Brasseur se mettait à hurler, il a pas compris, mais qu'est-ce que c'est que ce con, qu'est-ce que c'est que ce con. Alors, la phrase, on peut y aller parce qu'elle est incroyable. Seul Brasseur hurlait, croire devant Jean-Paul Sartre, osait après s'être piqué au litre de rouge lui écrire. Lettre incroyable de démence, ivre, ruisselante d'injures. « J'en ai marre, Sartre, vous êtes un con et le roi des connards. J'en ai marre, je chie sur votre pièce avec mes hémorroïdes, avec mes grappes d'hémorroïdes, je chie sur vos conneries et votre théâtre. » Tant d'excès, et quand je revenais chez Sartre, je lui disais « Comment ça va, Sartre ?» Il disait « Brasseur m'a écrit, ah bon ?» Et alors, il me chie dessus, me répond Sartre, il me barbouille la gueule avec ses hémorroïdes. « Vous avez pas lu la lettre ?» Et Sartre répond « Pas jusqu'au bout, il a le délire trop répétitif. » Bon, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Et vous dites aussi, je crois c'est dans votre entretien avec Vincent Tribolet de Villers pour Le Figaro, que vous êtes aussi entré dans cette œuvre par le portrait de Mauroy et ce qu'il dit
de la gauche.
De la gauche.
Ça, c'est absolument génial. Vous voulez le faire ? Comme vous voulez, moi je vous le fais ou vous, allez-y.
La gauche, le bien. Et je regardais, croquons ici des souvenirs tout frais, Monsieur Mauroy, Premier ministre. Je regardais donc Monsieur Mauroy, Premier ministre, prononcer le mot de droite. La joue s'enfle, le regard se durcit, la poitrine se gonfle d'un air mauvais, qu'expulse une bouche dégoûtée. Il dit en vérité Satan, le diable, mal, l'informe, Léviathan, Belzébuth, Melmoth, Baal. Il dit l'inhumain et l'incompréhensible. C'est exactement cela, l'incompréhensible. Comment la droite ose-t-elle et peut-elle exister ?
Il a beau heurter ce mystère de son frontal de bœuf, il ne le comprend pas. Ça, c'est sublime.
C'est sublime. Mais alors, justement, c'est presque déjà Muret. C'est l'empire du bien, en effet. Mais avant d'être une position de surplomb, la gauche a été une promesse. Avant d'être une arrogance, ça a été une espérance. Quelle promesse, quelle espérance ? Ce que dit par exemple aussi Mandelstam, la splendide promesse faite au tiers état, et Antoine Vitesse, cette formule qui est un magnifique oxymore, l'élitisme pour tous. La gauche a basculé, ou une partie de la gauche, dans l'anti-élitisme. La culture générale est jugée discriminatoire, voire raciste, donc elle est éliminée des concours de Sciences Po et de l'ENA. Mais vous, Fabrice Occhini, aussi fasciné que vous puissiez être par une littérature anti-politiquement correcte, cette part de la gauche, vous l'incarnez d'une certaine manière, parce que vous êtes un médiateur des grands textes, des grands auteurs. Donc vous êtes, et vous adressez au public le plus large possible, donc vous êtes fidèle, en quelque sorte, à cette promesse. L'élitisme pour tous, ça vous dit quelque chose. Alors c'est peut-être pas la gauche d'aujourd'hui, et ça ajouterait un chapitre au lamento de ma nostalgie, la gauche c'était mieux avant. Mais il se trouve que vous pouvez, par le métier que vous exercez, être qualifié de gauche à ce sens ancien.
Alors, on pouvait intégrer le pessimisme, une forme de ressentiment et une confiance extrêmement moyenne dans les vertus. Moi, j'en reviens pas. Souvent, on me l'a dit. Je dînais avec Bernard Cazeneuve, qui était au portrait, là, le soir où vous étiez là, d'ailleurs, il y avait Bernard Cazeneuve, et étonnamment, il y avait Chloé, le portrait de la merveilleuse chirurgienne dans le roman de Lançon, puisque j'ai élargi les portraits aux autoportraits et à un portrait de Philippe Lançon dans Le Lambeau. Je suis toujours sidéré qu'on me dise ça. Je pense que je peux pas aller au bout de ça parce que comme dirait Brigitte Bardot dans Le Mépris sur Nicolas Rey, elle dit je me méfie. Voilà, j'ai trop de méfiance, trop de pessimisme pour penser que l'homme est une merveille et que c'est formidable d'être fraternel. Il y a une petite, comme disent les Québécois, je garderai bien une petite gêne.
Oui, une petite gêne, c'est vrai, vous ne pensez pas forcément que l'homme est naturellement bon, ni qu'on va vers une société fraternelle, reste que vous jouez ce rôle, et donc...
Par hystérie, je pense, peut-être, névrotique.
Peut-être, par hystérie.
Parce que les gens disent, vous êtes généreux, vous savez, il y a des acteurs
je dirais pas ça.
Oui, il y a des acteurs qui disent, on ne peut pas être acteur si on n'est pas de gauche, alors je vois pas comment le plus grand de tous, c'est-à-dire le plus grand génie Rému, le deuxième le plus grand génie Jouvet, le troisième le plus grand de tous les temps, Michel Simon, je ne vois absolument... Il y a une actrice de là, du français qui a dit on ne peut pas entrer sur scène si on n'aime pas les gens. D'abord, c'est une phrase très bizarre. On peut les aimer bêtement, mais on n'est pas obligé. Donc, tout ça est très complexe.
Alors, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, aimer les gens, ça n'a strictement aucun sens. On aime des personnes. Et voir ces acteurs, ces rappeurs ou ces chanteurs s'adresser à leur public en disant « je vous aime », c'est une formule grotesque, indécente, obscène. Ça, nous sommes d'accord. Je voulais parler
de cette promesse. C'est gentil quand même, un matin de samedi, dans une France martyrisée, dans une France en conflit, c'est pas la première fois, hein, François Hollande aussi me l'a dit, hein, que j'étais de gauche.
Non, j'ai pas
oui,
dit
mais
ça.
J'ai compris ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là, bah tant mieux.
Je voulais dire que
c'est pas gai d'être de droite.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Moi-même, je suis plus souvent qu'à mon tour accusé d'être réactionnaire et peu m'importe.
Je dis simplement que j'ai envie de le préciser. Je vous ai vu vendre Lutte ouvrière.
Oui, récemment encore.
Il y a une dizaine de jours.
Oui. C'était à la porte du théâtre d'ailleurs, juste avant d'entrer. Alors, donc, Restons-en là sur, sur la gauche.
C'est vous le patron. C'est là où je suis pas trop de gauche, moi j'aime bien qu'il y ait des patrons.
Ben oui,
très bien. C'est vous le patron dans les
Bon, très bien. Alors je suis le patron de Fabrice Luchini et vous prenez le risque de faire un portrait, enfin de lire ou de dire une partie du portrait de Gaston Gallimard. Alors ça c'est un risque parce que Gallimard est un nom évidemment très connu par un très vaste public, mais Gaston, le prénom, ne dit plus rien à personne. Il a fondé la NRF, il a connu les plus grands, mais comment vous débrouillez-vous, ben, précisément, pour,
vous avez remarqué que pour le faire entendre bien. Il est mort en 1974, il a été à son bureau rue Sébastien Bottin jusqu'à l'âge de 94 ans, à 92 ans, il recevait Jean Cau dans son bureau, et il a été quand même l'homme qui incarne ce qu'est la NRF. Autour de lui, les Schlumberger, les Brice Parrain, les Jacques Lemarchand, les Albert Camus, les Raymond Queneau. Tout ça, c'était le patron. Il est mort en 1974. Et je, en précisant bien tout ça, le portrait se hisse au niveau de la... de l'intuition fulgurante de la vieillesse, du tableau magnifique de cet homme méfiant qui parle de littérature. Mais je pense que là, on pourrait en dire quelques mots, non ?
Oui, absolument.
Alors, ça commence par, une fois que j'ai bien expliqué aux jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes dans le théâtre, puisque je le dis bien qu'il est mort en 1974, qu'il est le grand-père du Gallimard actuel, mais qu'il est surtout l'homme qui a connu Proust, qui a connu Céline, qui a été le grand éditeur du XXe siècle. Et voilà comment il le décrit, Jean Cau, un nœud papillon, une tête rose et bleue de bon meunier. Alors pourquoi meunier ? Je n'en sais rien, poursuit Jean Cau. Peut-être à cause des fines pellicules qui brillaient sur le col de la veste du costume toujours sombre. Je l'imaginais avec des sabots, une ample blouse regardant calmement ses meules tournées. Un riche meunier, attention, un riche meunier. On lui apportait le grain, il devenait bon pain sous la croûte blanche de la couverture galette de livres, grâce à Maître Gaston. J'ai toujours connu Gaston, le même et éternel. On me disait à la fin de sa vie, tu vas voir Gaston, il est très fatigué. J'entrais dans le vaste bureau et je le trouvais comme d'habitude, et là je trouve ça sublime, je le trouvais comme d'habitude à la fois... prodigieusement endormi et éveillé. Voix toujours douce et éternel sourire. Ah, Gaston, Gaston. J'ai vu dans les bureaux et les couloirs de l'auguste NRF vieillir les troupes. J'ai vu Jean Paulhan, j'ai vu Brice Parrain, Jacques Lemarchand, que la fréquentation des théâtres et la lecture de quintaux de manuscrits avait rendu littérairement stérile. J'ai vu Raymond Queneau dans son trois livres, j'ai vu Albert Camus, j'en ai vu, etc. Mais le maître du moulin... le roi de la farine, le grand peseur de blé, c'était au sommet Gaston, le finot, le bonasse, le rusé, Gaston, le fondateur, à qui le Seigneur avait dit « Gaston, tu es Gaston, et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». Là, on n'est plus, on n'a pas besoin de connaître Gaston Gallimard, on n'a même pas besoin d'avoir une photo, on est ému, bouleversé de ce rite, de cette structure, de cette muscu. La phrase est musclée, « Gaston, tu es Gaston, et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». Ben voilà, ça s'appelle un grand écrivain.
Alors, vous dites qu'en effet, que c'est un portrait de Gaston Gallimard, vieil homme, vieillissant, gagné par l'âge. Et là, ça me fait penser à Proust, et notamment à la matinée des Guermantes. Parce que Proust, on croit que son rapport au temps se résume à l'alternative, finalement optimiste, temps perdu, temps retrouvé. Or, il y a une autre figure dans son œuvre, le temps irrémédiablement destructeur. L'être soudain vieilli n'apparaît pas, comment dire, dans sa vérité. Il n'est pas tel qu'en lui-même, il est chassé de lui-même. Et Proust décrit cette substitution. Alors voici, je vais vous lire, vous pouvez me permettre, un tout petit portrait en écho à ce que vous avez dit sur Gaston Gallimard. C'est au début de cette incroyable matinée des Guermantes, Monsieur d'Argencourt, dont le narrateur dit qu'il était son ennemi personnel. Il était le véritable coup de la matinée. Non seulement, au lieu de sa barbe à peine poivrée saine, il s'était affublé d'une extraordinaire barbe, d'une invraisemblable blancheur, mais encore tant de petits changements matériels pouvant rapetisser, élargir un personnage et bien plus changer son caractère apparent, sa personnalité. C'était un vieux mendiant qui n'inspirait plus aucun respect, qu'était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empaisée, était encore présente à mon souvenir. Et il donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotaient, que les traits détendus de sa figure, habituellement hautaine, ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. C'était évidemment la dernière extrémité où il avait pu être conduit sans en crever. Et voici la fin de cette description. Le plus fier visage, le torse le plus cambré, n'était plus qu'une loque en bouillie, agitée de ci, de là. Et tout à l'avenant, c'est-à-dire la matinée des Guermantes, mériterait presque un spectacle à elle seule.
Oui, avec l'interrogation, est-ce que l'oralité de Proust passe mécaniquement la rampe au théâtre ? Pas sûr.
C'est pas sûr.
Là, vous, comme vous le faites, avec cette voix douce, très très susurreuse, dans le très bon sens, sans intention, dans un état quasiment d'impersonnalité, c'est là où vous atteignez quelque chose d'assez rare, et que si un jour France Culture a des soucis avec vous, une carrière d'acteur, pour Jean Pointu, je te dis pas que tu peux faire, mais les Bouffes Parisiens où je vais aller, c'est pas pour vous tout de suite, 570 places, mais un théâtre de 200 places, avec cette voix que Jouvet adorait, c'est-à-dire la voix sans intention, la voix neutre, le grain de la voix, selon Roland Barthes, cette tessiture, qu'est-ce que la voix ? Hein, Freud n'aimait pas le téléphone, dit Roland Barthes, et pourtant il aimait écouter, car il trouvait toujours que c'était la mauvaise voix. Il trouvait le téléphone comme de la cacophonie. Eh bien vous, quand vous dites des textes, à chaque fois, je le remarque, et je tiens à dire ce jour, aujourd'hui, l'incroyable... la dimension précieuse qu'a votre émission, parce que vous êtes un lieu de résistance extraordinaire et je trouve un lieu totalement gauchiste, dans le sens d'une résistance à la bêtise. Pour citer Nietzsche, je veux nuire à la bêtise, et tous les samedis matins à 9h, vous essayez de le faire. Vous n'aimez pas les compliments, je le comprends. Est-ce que je peux rajouter un truc sur Gaston Gallimard et Proust ?
Oui.
Rapidement, c'est que Gallimard a dit une phrase extraordinaire sur Proust. Il dit à la fin de sa vie, Proust avait quatre amis. Il avait Léon Blois, il avait Léon Daudet, ce qui est très étonnant parce que Léon Daudet écrivait à l'Action française.
Oui.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Proust l'adorait et il disait que c'était le Saint-Simon de son époque. Ça, je l'ai lu.
Et Léon Daudet adorait Proust parce que si Proust a obtenu le prix Goncourt en 1919 contre Dorgelès, qui avait écrit les Croix de Bois, étions au lendemain de la victoire, ouais, un an après.
C'est grâce.
Et c'est grâce à Léon Daudet,
voilà,
qui s'est décarcassé pour Proust.
Voilà. Oui, ça, c'est, et donc il adorait. Et donc les trois amis sûrs, c'était Léon Daudet, Reynaldo Hahn, Proust, évidemment son fiancé, et moi-même. Je le voyais, dit Gallimard, au moins trois fois par semaine. J'arrivais vers 1h du matin, il y avait toujours un souper magnifique de servi. Ils envoyaient le mari de Céleste pour me chercher. Vous voyez, c'est totalement merveilleux. On envoie le mari de Céleste de Françoise pour aller chercher Gallimard. Vous imaginez la dramaturgie de cette époque. On envoie un chauffeur pour aller chercher Gaston Gallimard. Et alors, Gaston Gallimard entre et dit, il était dans son lit, Proust, vêtu d'une sorte de redingote. L'idée que Proust est dans son lit avec une redingote à 1h du matin, c'est sublime. Il vêtu d'une sorte de redingote. Parfois, il se levait pour aller déterrer un livre, une pièce de théâtre ou alors même une lettre. Et comme il portait un nombre incroyable de chaussettes de laine blanche, il semait ses chaussettes qui lui glissaient des pieds dans toute la chambre. S'il mangeait avec nous pendant les soupers nocturnes, dit Gallimard, mais évidemment, le Proust picorant, c'est une légende. Il attrapait une cuisse de poulet, et crac, une autre cuisse, crac, il avait des dents magnifiques, blanches, magnifiques. Et puis surtout, il buvait du vin, de la bière, du champagne. Et il y a cette phrase extraordinaire, moi je l'ai jamais vu en proie à une crise d'asthme. En vérité, il avait une santé fantastique, Proust. Bah ça, oui, c'est merveilleux.
Il est quand même mort assez jeune.
Oui, mais c'est ça que, nous aimons plus la vérité si elle sert la vie. C'est merveilleux de voir ça. De dire, il n'a jamais vu en proie une crise d'asthme, c'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. Il y a aussi ce passage que vous lisez dans votre spectacle. Vous lisez Gaston ? Oui, je lis. Beaucoup ? J'ai beaucoup lu. Nous parlons d'un tel. Ses livres ne se vendent pas. C'est Jean Coq qui parle. C'est normal, vous savez, ils sont très bons. Ce qui est bon peut se vendre, ce qui est très bon, c'est très difficile.
C'est pas magnifique.
Et ça me rappelle une phrase d'une des éminences de Gallimard, Jean Paulhan. Tout le monde a besoin de contes et d'histoires, en un mot de fiction. Mais très peu de gens ont besoin de littérature.
Oh, tu donc.
C'est pas mal, hein.
Ça, faut que je la prenne, celle-là.
C'est pas mal.
Ah, elle est merveilleuse.
Bien.
C'est bien, il y a un blanc.
Il y a un blanc, je ne sais
mais
plus quoi dire.
Comme dirait Guitry, les blancs de film à la suite de ce qui suit un concerto de Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Est-ce qu'on va dire que le blanc qui suit une intervention de Finkielkraut, c'est encore du Finkielkraut? Je vous mets mal à l'aise. Allez-y.
Je ne sais plus quoi dire là.
Voilà.
Alors, changeons de sujet.
Oui.
Je repense à votre grand entretien avec Vincent Trémollet de Villars.
Remarquable personnalité et vraiment grand journaliste.
Et en effet, vous faites référence, justement, pour justifier votre goût de la rapidité, à deux reprises, je crois, à Jules Renard. Alors dites-moi un mot, pourquoi Jules Renard ?
D'abord il m'aide, Jules Renard, vous savez, ça, on n'a qu'à le citer dans mon spectacle, les écrivains parlent d'argent, que je continue là à la Porte Saint-Martin pour être dans une alternance de théâtre intime et théâtre large. Eh bien, il y a une phrase de Jules Renard, l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Puis après, on peut associer, je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai le dégoût très sûr. Après, on peut dire la plus belle phrase qui n'a jamais été... Enfin, oh, j'exagère un peu, c'est excessif. Mais il parle d'un monsieur qu'il a invité à dîner, et il dit cette chose absolument somptueuse. Il ouvre son journal pour parler de lui et il dit... Ce monsieur parlait très peu, mais on voyait qu'il pensait des bêtises. Ça, pour moi, je sais pas, c'est même pas explicable. C'est comme pour moi des phrases de Cocteau. Faut jamais poétiser au-dessus de son luth. Alors, ce que vous posez comme question, c'est, je l'ai reconnu dans cet entretien avec Vincent Trémollet de Villars, j'ai du mal avec le roman. Le grand roman, hein. J'ai pas eu de mal avec Flaubert, j'ai pas eu du tout de mal avec Céline, mais le grand roman, Tolstoï, le grand Dostoïevski, j'ai du mal, je me force inlassablement, j'y retourne, Proust, comme dirait mon ami Gabriel Dussurgé, il y a de bons moments, mais il y a de sacrés quarts d'heure, et je n'arrive pas à rentrer dans ces sacrés quarts d'heure que les Proustiens adorent par-dessus tout, en reconnaissant que Proust est un génie absolu. Mais je pensais à une phrase dans d'un personnage extrêmement antipathique encore un. Et là, c'est pas Céline, c'est Paul Morand. Et c'est lui qui m'a produit le déclic des premières directions de ce spectacle. Il dit à un moment, en parlant d'un écrivain, il a encore fait cette erreur, il a développé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut bien donc dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que le grand portraitiste, eh ben, il développe pas. C'est pas un développement à partir de rien. Et ce qu'on a comme problème quand on n'est pas bon pour le roman, c'est qu'on s'en va dans une des... Le portrait t'empêche de te dissoudre. Tandis que le roman, si tu n'es pas psychiquement très solide, il peut t'entraîner dans la déréalisation. Tiens, c'est la première fois que je découvre exactement mon amour des aphorismes et des portraits grâce à votre émission.
Alors, là, j'ouvre l'anthologie de la prose française de Suzanne Julliard.
Admirable livre.
Alors, il y a quelques aphorismes de Jules Renard que je voudrais lire ici. Je crois qu'ils pourront enchanter nos auditeurs. Je vais les lire lentement pour que ceux-ci puissent les recopier. La modestie va bien aux grands hommes. C'est de n'être rien et d'être quand même modeste qui est difficile. Premier, comme on serait meilleur sans la crainte d'être dupe. Et aussi, ce dernier aphorisme, pour la route, il n'est pas nécessaire de mépriser le riche, il suffit de ne pas l'envier. C'est beau, ça.
Ah oui, ça, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Alors, encore un blanc ? Non.
Non.
Non, pas de blanc. Puisque vous parlez des sacrés quarts d'heure de Proust et des grands moments, il y a un grand moment dont nous avons parlé en préparant cette émission, c'est Swann face au couple des Guermantes quand il annonce qu'il est malade, qu'il a un cancer et qu'il va bientôt mourir. Et là, la duchesse et le duc des Guermantes font assaut d'ignominie. Il faut dire que La recherche du temps perdu est un véritable jeu de massacre. Un seul personnage surnage, en réalité. C'est la grand-mère du narrateur. Sinon, c'est absolument terrible. Et alors, la duchesse de Guermantes est très embêtée parce qu'ils vont à une soirée et elle est placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir. Elle ne savait pas quoi faire et elle a pensé que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. Vous les plaisantez, dit-elle, et puis il y a une histoire de chaussons qu'elle doit aller chercher. Son époux, le duc des Guermantes, l'attend, il est impatient, il a faim, il a mal mangé au déjeuner. Et le duc n'était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens mourants, car les premiers l'intéressaient davantage, lui apparaissaient plus importants. Aussi fut seulement par bonne éducation et gaillardise qu'après nous avoir éconduits gentiment, il cria à la cantonade et d'une voix de stentor de la porte à Swann qui était déjà dans la cour. « Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins, que diable! Ce sont des ânes! Vous vous portez comme le pont neuf, vous nous enterrerez tous. »
C'est admirable.
C'est effrayant, ça.
Et c'est le moment où elle rentre dans la voiture, Swann lui dit « Mais je ne serai plus là, chère madame. » Et Proust dit « Elle n'a plus dans sa jurisprudence intérieure l'attitude face à ça. Faut-il qu'elle continue ou faut-il qu'elle ait un air de compassion ? » Et c'est bizarre parce que dans ma lecture, je fais une... Si vous m'accordez une minute, je fais une petite association à, bizarrement, un lien Proust-Céline. Céline, en 1929 ou 30, s'occuper d'un avortement. Scène somptueuse où on voit la mère qui en profite, la mère de la fille qui est en train de perdre le sang. La mère hurle, j'en mourrai, docteur. La pauvre fille est pâle, elle n'est paumée. Et il décrit de manière extraordinairement tragique que la mère en profite pour le grand rôle. Elle a le rôle principal, elle veut pas le perdre. Ça, c'est la vision atroce de Céline. Et la pauvre femme qui souffre ne parle pas. Et à un moment, Céline dit, et vous allez voir qu'il y a un lien avec le génie proustien, il dit, nous apercevions le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas avoir son attitude prête encore pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes. Les êtres vont d'une comédie vers une autre. Entre-temps, la pièce n'est pas montée. Ils en discernent pas les contours, leur rôle propice. Alors ils restent là, les bras ballants devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, brelochant d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. C'est des vaches sans train. Eh bien, la duchesse de Guermantes... la duchesse de Guermantes, au moment, elle dit « Alors vous serez là en Italie, hein, bien sûr. Mais non, madame, je vais mourir dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. » Et là, elle ne sait pas s'il faut continuer à sourire. Ça nous fait penser à Cottard, qui ne rit que quand la plaisanterie que quelqu'un a émis a produit un bel effet. Alors là, il a un rictus prêt à soit monter vers le sourire si les gens trouvent ça très drôle. Il n'a aucune opinion. C'est ça qui est génial chez Proust. Il n'a aucune opinion. Alors si quelqu'un dit, et alors, la fin de la blague, la chute, et tout d'un coup, Cottard regarde avec un regard en disant, je vois où vous voulez en venir. Il pense qu'avec ça va passer. Et si les gens rient, ils sourient. Si les gens sont neutres, ils continuent à adhérer. Ben ça, c'est du génie proustien absolu. Et c'est une petite possibilité de lier ce que Emmanuel Berle, qui avait toutes les raisons de haïr Céline, mais il a quand même écrit deux grands tempéraments, je dirais les seuls grands pour Berle, des grands tempéraments romanais, c'est Céline et Proust pour moi. Et Berle, vraiment, lui en voulait pas, alors qu'il savait toutes les horreurs que Céline avait écrites. Voilà.
Et il y a eu une querelle célèbre entre Berle et Proust sur l'amour.
Voilà,
on se disputait beaucoup autour de la politique à cette époque. D'ailleurs, Berle en parle dans Sylvia. Tout n'était qu'exclusion, exclusive et rupture. Et là, il a eu cette dispute parce qu'il est rentré de Suisse et il était très amoureux. Il croyait dans la communication de l'amour. Ça a rendu Proust fou.
C'est pas Modiano qui en parle dans son livre.
Si.
C'est ça.
Et Berle en parle dans Sylvia, et donc Proust le chasse de sa salle de bain en disant ce n'est pas possible, c'est pas possible.
Ça, c'est clair que pour Proust, il n'y a que de la jalousie, que du désir mimétique même, on dirait.
Désir mimétique et pure projection. C'est-à-dire, l'amour n'appartient pas à l'être qui l'inspire, ce qui est une phrase terrible. Et d'ailleurs, ça en dit long aussi sur le dogmatisme proustien.
Quelle est votre position là-dessus?
Ma position est totalement anti-proustienne. Ah, là, et je suis étonné d'ailleurs, justement parce que ça jette un doute presque sur Proust romancier. Un romancier s'ouvre à toutes les possibilités, il n'a pas de théorie, d'ailleurs Proust le dit, une théorie c'est comme une marque, le prix sur un produit, sur un objet qu'on vend. Il ne faut pas qu'il y ait de théorie. Or, il y a une théorie de l'amour omniprésente dans La Recherche du Temps Perdu, et c'est une loi qui ne souffre aucune exception. Berle dit « moi je suis une exception » et Proust le chasse de chez lui parce qu'il considère que c'est un affront fait à son propre système. C'est absolument
parce que
fascinant.
C'est le noyau de Proust, c'est le noyau. C'est la cruauté, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des... C'est là où il est héritier de tous les moralistes et de Freud même, c'est-à-dire il n'y a aucun acte de l'être humain qui échappe à son économie du moi. C'est pas grave.
C'est pas grave, mais c'est une solitude
absolue.
C'est drôle,
les gens qui vous prennent pour quelqu'un qui est conservateur et réactionnaire, vous êtes finalement un idéaliste incroyablement fleur bleue. Moi, je l'ai toujours pensé.
Non, pas forcément, mais enfin, voilà. Il ne s'agit pas ici de moi, mais vous avez parlé de Freud. Et il y a dans les portes, dans les croquis de mémoire,
Lacan.
Un portrait inoubliable
de Lacan.
Absolument extraordinaire. Il ne figure pas pour le moment.
Je fais Gaston Gallimard, Cocteau, surtout Jean Genet et Sartre.
Et Lacan devrait y figurer quand même, parce que nous sommes dans les années 50, et Sartre est au firmament. On ne jure que par Sartre, et Lacan, qui n'est pas très connu, à un moment donné, va voir Sartre. Alors c'est merveilleux d'ailleurs quand même aussi, peut-être ça vous devrez le souligner, il n'y a pas de prénom.
Ah, quelle merveille.
Voilà. Parce que le prénom règne maintenant, oui. Il n'y a plus de nom de famille, et là il n'y a pas de prénom.
Paul a été assassiné, mais Claudine est très sûre qu'elle était avec Jacqueline.
Voilà.
Puis personne n'est nommé, mais Muret est le prophète là-dessus.
Et par exemple, il lui dit, Sartre dit « Co ». Il dit « Voilà, Co, j'ai une cervelle d'or,
voilà.
Co ». Et
ouais.
Là, Lacan, c'est Lacan. Sartre, c'est Sartre. Cocteau, c'est Cocteau. Ouais. C'est quand même extraordinaire.
Mais les gens, peut-être nos auditeurs le savent, ils le savent, parce que 9h le matin sur France Culture, c'est du pointu. Mais pourquoi Muret a montré l'horreur du prénom? C'est qu'il n'y a donc plus de nomination d'identité spécifique qui se singulariserait et qui, non pas qui hiérarchiserait, mais qui donnerait un héritage et une nomination à un être. En le disant Paul, il n'est pas nommé et donc il est indifférencié. Et quand les gens ne comprennent pas Muret, qui moi n'est pas non plus un écrivain, je ne vais pas devenir fou de Muret, mais Muret a bien photographié l'indifférenciation du concept du prénom, voilà.
Parce que même si le prénom est très original, il n'y a plus de généalogie, voilà. Il n'y a plus d'héritage,
et il n'y a plus de
profondeur,
passé.
Il n'y a plus de passé, et il n'y a plus d'honneur ou de parole d'honneur. Alors donc, Lacan arrive, et Coe dit à Sartre, il avait l'air agité. Et vous savez ce qu'il a amené, répond Sartre. Il me dit, Sartre, ce qui m'arrive est horrible. Vous n'imaginez pas ce qui m'arrive. C'est horrible. Vous connaissez ma fille, hein? Vous savez comme je l'élève, vous savez avec quel soin, quelle attention je l'observe, hein? Oui, hein? Eh bien, vous n'imaginerez jamais ce que ce matin j'ai surpris cet enfant en train de faire. C'est horrible. Elle avait glissé ses petits pieds dans mes grands souliers et marchait dans sa chambre. Effrayant. Elle me tuait, hein? Elle marchait avec ses pieds minuscules dans mes chaussures et riait. Elle me hait. C'est un meurtre, Sartre. Vous l'avez calmé. Difficile. Si je lui avais dit que sa gosse s'amusait, il m'aurait pris pour son complice. Ensuite, il m'a débité dans son comportement toute une théorie sur les sabots de Noël dans les cheminées, assez marrante. Je lui ai conseillé d'en écrire. Ah oui ?
Ça, c'est super.
Quand on veut se débarrasser d'un maboule, il faut toujours lui conseiller d'écrire. C'est radical. Il saute sur son stylo, et avec un peu de chance, vous n'entendez plus parler de lui pendant 3 mois.
C'est fabuleux. Ah ça, c'est fabuleux.
Oui.
Comment Sartre gère les fâcheux.
Oui, et comment Lacan, qui a été quand même...
La star après
Sartre, justement, quand Sartre a décliné, c'était au profit des maîtres penseurs des années 60, et Lacan était au centre, vraiment, il était au cœur, il était l'objet d'une dévotion extrême, dont Jean Coe d'ailleurs parle au début.
C'est beau votre fidélité à Sartre d'ailleurs, moi qui vous connais de loin en loin, vous adorez Jean-Paul Sartre. Je vous ai vu une fois un été, vous lisiez... Les séquestrés d'Altona, ou qu'est-ce que vous lisiez? Non, vous lisiez une pièce qui avait été...
Keane. Oui, je lisais Keane, oui, absolument. Non, je ne suis pas totalement
sartrien.
Fidèle à Sartre, ni sartrien. J'ai beaucoup réfléchi à la querelle Sartre-Camus, et j'ai pris parti pour Camus, que Sartre a traité avec un mépris.
Dans le portrait, il le traite avec un mépris au moment du prix Nobel.
Oui, il considère que Camus a trahi sa classe, et qu'en même temps, il n'est pas à la hauteur.
Ouais.
Il est nul, en plus d'être passé dans le mauvais camp. Donc pour moi, c'est
mais
absolument
même,
pardonnable. Ouais. Et puis, le refus du prix Nobel parce que Sholokhov ne l'a pas obtenu, mais Pasternak, il y a un lourd dossier. Il n'empêche, j'ai beaucoup aimé Sartre dans mon adolescence, et je ne veux pas renier cet amour de jeunesse. Mais il ne s'agit pas de moi, je répète, il s'agit de vous, de votre spectacle. Et il n'y a pas simplement des portraits, il y a des autoportraits, il y a notamment, et on pourra peut-être terminer avec ça, il y a notamment les poètes de 7 ans,
ah oui,
que j'avais appris par cœur dans ma jeunesse, parce que j'écoutais en boucle le disque de Ferré, Verlaine, Rimbaud. Et vous dites, les poètes de 7 ans, qui est un poème absolument merveilleux, c'est un autoportrait.
Oui, c'est qu'ils sont pas... Rapidement, d'abord, il faut simplement éclairer le public qui vient, parce que le défaut de Rimbaud, son génie, est de véritablement faire aucun effort pour être compris, là, vraiment. Mais c'est un autoportrait et de sa mère, et surtout, il est fondamental ce poème, parce qu'il a exigé qu'on brûle tout ce qu'il avait écrit avant. Tout ce qu'il a écrit avant, c'est quand même des merveilles. Je parle de On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, à la musique, enfin des merveilleux poèmes. Il ne voulait plus rien. Vous voyez déjà l'état. Il a 17 ans et il écrit ce poème. Comme je n'ai trouvé aucun portrait, je me suis dit un autoportrait de Rimbaud, ça, c'est les poètes de 7 ans. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière. Sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant des tics noirs, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs où tenture moisie en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine. Et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe dans un golfe de jour, pendant du toit, l'été surtout. Vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines, quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puants la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés. Au rouge, il regardait des Espagnols rire ou des Italiennes quand venait l'œil brun folle en robe d'Indienne. 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son lit en remuant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle, meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs en 3 roulements de tambour font oser d'y rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font le remuement calme et prennent leur essor, et comme il savourait surtout les sombres choses. Quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman... Sans cesse méditer, plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées de fleurs de chair au bois sidéral déployé. Vertige, écroulement, déroutes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrues et pressentant violemment la voile.
Eh ben dis donc, je dis à nos auditeurs, fascinés comme moi, que je lisais le poème en écoutant Fabrice Cuny, mais que lui ne lisait pas.
Ah bah
non, ça, il ne lisait pas. Et en effet, c'est absolument extraordinaire.
Vous imaginez qu'il voit toute sa vie, le dernier vers, et pressentant violemment la voile. Il a 17 ans et 2 mois.
Il voit toute sa vie, et c'est très beau de le présenter justement comme un autoportrait de Rimbaud. Nous arrivons
à la fin,
au terme de cette émission, parce que je ne peux pas ajouter de post-scriptum à cette lecture. Alors je voudrais, Fabrice Cuny, que vous nous disiez quand on pourra voir ce spectacle, conversation.
Alors, je vais tout au bouffe parisien. Je fais le lundi soir à 20h, Les écrivains parlent d'argent, parce que la chance de lire Peggy, Marx, Freud, la crise des subprimes continue. Je le joue en France, partout. Et le mardi et le mercredi à 18h30, pour rendre difficile l'accès, je le joue, non pas par mépris, mais simplement pour pas qu'il y ait de malentendus, je joue les portraits au bouffe parisien à partir du mois d'avril. Voilà.
Le mois d'avril.
Voilà. Parce que tout le reste est plein,
à Marigny,
et à la Porte Saint-Martin et à Marigny.
À Marigny, vous le jouez en ce moment.
Ce qui est étonnant, c'est les petits chiffres, hein, Alain. Hein. C'est pas Mick Jagger qui vend 107 000 places en une minute et demie. C'est des chiffres modestes. Je suis très régional de ce côté-là. Mais c'est quand même rassurant de voir que 1000 personnes viennent à la Porte Saint-Martin tous les lundis.
Et moi, vous me conseillez quelle salle pour mes débuts ?
Pour vos débuts, je vous conseillerais un 100 places. Parce que votre voix, au niveau vocal, est belle parce que vous la travaillez sans intention faussement lyrique, mais je n'attaquerai pas tout de suite la Porte Saint-Martin de 1180 places.
D'accord.
Là, vous seriez malheureux.
D'accord.
Bien que vous faites la salle Gaveau et que les gens hurlent et qu'il y a des strings qui sortent pour vous éclabousser de leur libido. N'oublions jamais que vous êtes devenu un personnage érotique.
Oh, écoutez Fabrice Cuny, c'est une très belle conclusion, mais j'ajoute quand même que le livre de Janco maintenant ne se trouve plus chez les bouquinistes, puisque grâce à vous, il a été republié, croquis de mémoire, à la table ronde, dans la collection, la belle collection, La Petite Vermillon. Merci infiniment.
Merci infiniment, Alain Finkielkraut.
Fabrice Cuny, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Canac. À la technique aujourd'hui, Valentin Bobinet.
Auquel j'invite, car c'est un homme qui m'a assemblé d'une grande lumière intérieure. Il sera invité modestement sur une chaise, mais il sera invité.
Valentin Bobinet.
Oui, Valentin. Et vous, vous payerez parce que il faut participer à toute l'économie du pays.
Vous avez raison. Surtout qu'il y a une crise assez grave aujourd'hui.